Vous écoutez, on lit pour vous.
Tout sur le parasnowboard. 8 médailles à remporter aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026. Un texte paru le 20 octobre 2025 sur le site du Comité paralympique canadien. Préparez-vous pour Milano Cortina 2026 et familiarisez-vous avec le plus récent membre de la famille des sports paralympiques d'hiver. Dernier sport ajouté au programme des Jeux paralympiques d'hiver, le parasnowboard fait désormais partie des épreuves à ne pas manquer. Milano Cortina 2026 sera la 4e édition des Jeux à présenter ce sport populaire qui ne cesse de croître depuis ses débuts. Le Canada a d'ailleurs acquis une réputation enviable en parasnowboard grâce à des athlètes vedettes comme Tyler Turner et Sandrine Hamel. À moins de 6 mois avant les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, découvrez tout sur le parasnowboard et préparez-vous à encourager l'équipe paralympique canadienne. Origine paralympique. Le parasnowboard fait partie du programme paralympique officiel depuis les Jeux de Sochi 2014. Ces Jeux comptaient 2 épreuves de médailles pour les hommes et les femmes dans la catégorie d'athlètes qui ont une déficience aux membres inférieurs. Au total, 45 athlètes originaires de 20 pays ont participé aux épreuves de snowboard cross. À Pyeongchang 2018, le parasnowboard comptait 10 épreuves de médailles. Chez les hommes, il y avait des épreuves pour la catégorie d'athlètes qui ont une déficience aux membres supérieurs et 2 catégories pour ceux qui ont une déficience aux membres inférieurs, tandis que chez les femmes, il y avait des épreuves pour les 2 catégories qui touchent les membres inférieurs. Les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 ont réuni 75 athlètes provenant de 21 pays qui ont participé à 8 épreuves de médailles, dont le slalom incliné et le snowboard cross. Informations sur la classification. La compétition de snowboard comprend 3 catégories chez les hommes et les femmes. SBLL1, les planchistes ont une déficience grave à une jambe ou une déficience combinée grave qui touche les 2 jambes. Les personnes amputées peuvent se servir de prothèses pendant les épreuves. SBLL2, les planchistes ont une déficience à une jambe ou aux 2 jambes et leur niveau d'activité est moins limité que les athlètes de la catégorie SBLL1. SBUL, les planchistes ont des déficiences aux membres supérieurs. Épreuves. Les Jeux paralympiques comptent 2 types d'épreuves de parasnowboard, le snowboard cross et le slalom incliné. Snowboard cross. Pour se qualifier, chaque athlète effectue 3 descentes chronométrées sur le parcours et sa meilleure descente détermine l'ordre de départ des finales selon le chrono le plus rapide. Pendant les finales, les athlètes s'affrontent dans des séries éliminatoires. Slalom incliné. Chaque athlète effectue 3 descentes sur le parcours et sa meilleure descente détermine le classement selon le chrono le plus rapide. Les athlètes concourent individuellement sur le parcours. Le parasnowboard au Canada. À l'avant-garde du parasnowboard, le Canada a envoyé des athlètes pour représenter la nation aux 3 éditions des Jeux paralympiques organisées jusqu'à présent. Sochi 2014. Les 4 premières personnes à représenter le Canada en parasnowboard aux Jeux paralympiques de 2014 ont été Michel Salt de Calgary, Alberta, John Leslie d'Arnprior, Ontario, Tyler Mosher de Whistler, Colombie-Britannique et Ian Lockie de Rosslyn, Colombie-Britannique. La 6e place de Leslie a été le meilleur résultat obtenu par le Canada à l'issue de l'épreuve de snowboard cross SBLL2. Pyeongchang 2018. En 2018, Salt et Leslie ont de nouveau concouru aux côtés d'autres athlètes, Sandrine Hamel de Saint-Sauveur, Québec, Andrew Genge d'Oshawa, Ontario, Colton Little de Wawa, Ontario, Alex Massey de Barrie, Ontario et Kurt Minard de Weyburn, Saskatchewan. Salt a été la meilleure du Canada et a terminé 4e à l'épreuve féminine de snowboard cross SBLL1. Cette équipe, composée de 7 membres, constitue encore aujourd'hui la plus grande délégation canadienne d'athlètes de parasnowboard aux Jeux. Beijing 2022. Après avoir manqué de peu le podium en 2014 et en 2018, le Canada a remporté ses trois premières médailles dans cette discipline aux Jeux de Beijing 2022. Tyler Turner de Campbell River, Colombie-Britannique, amputé des deux jambes, a triomphé à l'épreuve masculine de Snowboard Cross SBLL1 et a remporté la médaille de bronze au slalom incliné. Lisa DeJong de Saskatoon, Saskatchewan, a remporté la médaille d'argent à l'épreuve féminine de Snowboard Cross SBLL2. Les deux athlètes participaient pour la première fois aux Jeux paralympiques. Quant à Amel et Massy, deux piliers de l'équipe nationale, l'édition des Jeux dans la capitale de la Chine représentait leur deuxième participation. À l'approche des Jeux de Milano-Cortina 2026. Aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026, la compétition de parasnowboard aura lieu au parc de parasnowboard Cortina, situé à Cortina d'Ampezzo. Il y aura 8 médailles à remporter. La compétition féminine comprend 2 épreuves, le slalom incliné SBLL2 et le snowboard cross SBLL2. Les 6 autres épreuves seront disputées chez les hommes et comprendront le slalom incliné SBLL1, SBLL2 et SBUL, ainsi que le snowboard cross. Selon le calendrier actuel, les qualifications pour les épreuves masculines et féminines de parasnowboard cross auront lieu le 7 mars, suivies des finales le lendemain, le 8 mars. Le slalom incliné est prévu pour le 14 mars, l'avant-dernier jour des Jeux. C'était tout sur le parasnowboard, 8 médailles à remporter aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026, un texte paru le 20 octobre 2025 sur le site du Comité paralympique canadien.
Nouvelle étude met en lumière le lien entre les maladies cardiaques et le risque de zona. Un texte de la rédaction paru le 23 octobre 2025 dans Cision. Les résultats révèlent que les adultes atteints d'une maladie cardiovasculaire présentent un risque accru de 15% de zona. Les résultats montrent une augmentation du risque de zona allant jusqu'à 27% chez les adultes présentant deux maladies chroniques ou plus, comparativement à ceux qui n'ont pas de tels problèmes de santé. Les résultats d'une nouvelle étude rétrospective, VEO-000477, s'ajoutent à la recherche révélant un lien entre les maladies cardiovasculaires, MCV, et l'herpès zostère, communément appelée zona. Les conclusions de l'étude offrent une meilleure compréhension de l'incidence et du risque du zona chez les personnes atteintes de maladies chroniques, notamment de MCV. Les résultats de l'étude seront communiqués cette semaine au Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire qui se déroule à Québec. On estime généralement que le zona, causé par la réactivation du virus à l'origine de la varicelle, touche une personne sur 3 au cours de sa vie. Les résultats de l'étude ont révélé que la présence d'une maladie cardiaque augmentait de 15% les risques de développer le zona. Chez les personnes atteintes de 2 maladies chroniques ou plus, notamment de MCV, d'asthme, de diabète ou de MPOC, le risque de zona a augmenté jusqu'à 27%. Selon les données, le taux de zona chez les patients atteints de MCV était plus élevé chez ceux âgés de 65 ans et plus. Ce constat est cohérent avec l'immunosénescence, l'affaiblissement naturel du système immunitaire qui survient à mesure que nous vieillissons et qui réduit la capacité des personnes âgées à lutter contre les infections, les exposant ainsi à un risque plus élevé de maladies graves. Le Dr. Mark Loeb, professeur à la Faculté des sciences de la santé de l'Université McMaster et auteur principal de l'étude, a déclaré « Les résultats de cette recherche soulignent l'importance de comprendre l'interaction complexe entre des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires et le zona. La découverte de ce lien pourrait aider à éclairer la pratique clinique et, en fin de compte, pourrait mener à la mise en place de meilleurs soins préventifs contre le zona chez les populations vulnérables. Cette étude s'ajoute à l'ensemble croissant de données probantes qui établissent un lien entre les MCV et le zona. Une étude distincte a montré que le risque d'événements cardiaques et cérébrovasculaires indésirables majeurs augmentait de 19 % au cours de l'année suivant un épisode de zona, ce qui laisse supposer une relation bidirectionnelle entre les deux maladies. Dr. Michelle Horn, directrice médicale nationale à GSK, a déclaré « On estime qu'au Canada, un adulte sur 12, soit 2,6 millions de personnes, vit avec une maladie cardiaque diagnostiquée et que plus de 8 millions de Canadiens sont atteints de multimorbidité. Ces résultats fournissent des renseignements importants sur les risques pour la santé auxquels ces patients peuvent être exposés et soulignent combien il est important de comprendre et de prendre en charge les répercussions qu'a le zona, de façon plus large, sur la vie quotidienne et la santé à long terme des patients. Le document complet de l'étude sera envoyé à une revue à comité de lecture pour une publication prévue d'ici fin 2025. À propos de l'étude VEO-000477, l'étude VEO-000477 a été menée par GSK en collaboration avec le Dr. Mark Loeb de l'Université McMaster, le Dr. Philip Baer de l'Ontario Medical Association et avec l'appui d'IQVIA Solutions Canada Incorporé. Elle comportait une analyse rétrospective des dossiers médicaux administratifs de l'ICES, anciennement l'Institute for Clinical Evaluative Sciences, répertoriant les cas de zona chez les Ontariens de 18 ans et plus, enregistrés sur plus de 11 ans entre avril 2011 et le 31 mars 2022. À propos du zona, herpès zostère. Zona est le nom courant de l'herpès zostère. Le zona est causé par la réactivation du virus varicelle zona, VZV, soit le même virus que celui qui est à l'origine de la varicelle. 90 % des Canadiens adultes ont eu la varicelle et risquent de développer le zona, et une personne sur trois développera le zona au cours de sa vie. Le zona se présente habituellement sous forme d'éruptions cutanées s'accompagnant de vésicules douloureuses sur la poitrine, l'abdomen ou le visage. Les douleurs sont souvent décrites comme une sensation de douleur aiguë, de brûlure, de coup de poignard ou de choc électrique. Outre l'inconfort de l'éruption cutanée, la maladie provoque une douleur sous-jacente dans les nerfs, que les personnes qui en sont atteintes décrivent comme une brûlure, une puissante palpitation ou un coup de poignard. La douleur peut être suffisamment grave pour nuire au travail et à d'autres activités quotidiennes aussi simples que s'habiller. Jusqu'à 40 % des personnes atteintes de zona signalent au moins une complication de la maladie, comme la névralgie post-zostérienne, NPZ, une douleur névralgique de longue durée qui peut persister plusieurs mois, voire des années. Plus rarement, le zona peut entraîner des infections bactériennes de la peau, une faiblesse, une paralysie musculaire et une perte de l'ouïe ou de la vision. C'était une nouvelle étude met en lumière le lien entre les maladies cardiaques et le risque de zona. Un texte de la rédaction paru le 23 octobre 2025 dans Scision.
Avancer sans s'épuiser, un témoignage lumineux au service de la prévention. Un texte de Yannick Lepage paru le 21 octobre 2025 dans Art et Culture. le nouveau livre d'Émilie Vien offre un récit authentique et porteur d'espoir pour toute personne confrontée à l'épuisement professionnel. À travers la métaphore poétique des saisons, l'autrice québécoise transforme son expérience personnelle en guide de résilience. Dans un contexte où 39 % des employés canadiens se disent épuisés au travail en 2025 contre 35 % en 2023, l'ouvrage « Avancer sans s'épuiser » d'Émilie Vien arrive à point nommé. Publié aux éditions Un monde différent, ce livre de développement personnel se distingue par son authenticité et sa capacité à transformer une expérience douloureuse en message d'espoir pour des milliers de personnes qui se reconnaîtront dans ce parcours. Un acte de courage au service des autres. Partager son histoire d'épuisement professionnel n'a pas été une démarche facile pour Émilie Vien, fondatrice de La Planificatrice, entreprise spécialisée dans la gestion du temps et l'organisation. Citation : Il y a eu un inconfort de parler autant de moi dans le livre, surtout que mes parents apprennent des choses qu'ils ignoraient. Fin de citation, confie-t-elle avec une franchise touchante. Pourtant, c'est précisément cette vulnérabilité qui fait la force de son témoignage. Citation : Mon corps m'a parlé pendant 3 ans, mais j'ai refusé d'écouter. Fin de citation. L'autrice révèle des pensées que beaucoup n'osent avouer, allant jusqu'à partager qu'elle souhaitait secrètement avoir un accident pour pouvoir arrêter de travailler. Cette honnêteté brutale brise le silence et la honte qui entourent trop souvent l'épuisement professionnel. Citation : Mon intention, c'est vraiment d'aller aider les gens. Fin de citation, explique-t-elle, résumant ainsi la motivation profonde qui l'a poussée à franchir le pas de l'écriture. Dans une société où parler de ses difficultés psychologiques demeure tabou pour beaucoup, ce geste de transparence contribue à normaliser une expérience que vivent actuellement 24 % des travailleurs québécois. L'autrice assume d'ailleurs explicitement ses limites, rappelant qu'elle n'est pas professionnelle de la santé et que ses écrits sont basés sur son vécu personnel. La métaphore des saisons, un cadre rassurant et accessible. L'une des contributions les plus remarquables du livre réside dans sa structure narrative innovante. Émilie Vien utilise la métaphore des 4 saisons pour illustrer les différentes étapes du burn-out, offrant ainsi un cadre conceptuel aussi poétique qu'accessible. Citation : L'automne, c'est le moment avant qu'on obtienne un diagnostic. On normalise un paquet de choses qui ne devraient pas l'être. Fin de citation, explique-t-elle. Cette approche métaphorique permet aux lecteurs de se situer dans leur propre parcours et de comprendre que chaque phase difficile est temporaire, comme les saisons qui se succèdent inexorablement. L'automne représente la descente progressive, l'hiver symbolise le cœur de la tempête, le printemps annonce la renaissance, tandis que l'été incarne le maintien de l'équilibre retrouvé. En donnant des repères clairs et imagés, l'autrice déstigmatise le processus souvent chaotique de l'épuisement et de la récupération. Cette structure offre également un message d'espoir essentiel. Après l'hiver vient toujours le printemps. Cette perspective optimiste s'avère particulièrement précieuse pour les personnes en pleine crise qui ont du mal à envisager un avenir meilleur. Les 8 mensonges qui nous piègent. Dans son ouvrage, Vien identifie 8 mensonges que nous nous racontons pour justifier notre épuisement, une grille d'analyse qui permet aux lecteurs d'identifier leurs propres mécanismes d'auto-sabotage. Elle admet les avoir tous incarnés à un moment ou un autre de son parcours. Le mensonge de ne pas pouvoir laisser tomber son équipe, même au détriment de sa santé, résonne particulièrement. Citation : Avec du recul, je réalise que l'entreprise ne s'est pas effondrée sans moi. Fin de citation, observe-t-elle aujourd'hui. Cette prise de conscience tardive souligne l'importance du sentiment d'indispensabilité qui pousse tant de personnes à négliger les signaux d'alarme de leur corps. Les recherches montrent d'ailleurs que les facteurs organisationnels comme les charges de travail excessives, 39 %, et la fatigue émotionnelle liée aux tâches stressantes, 38 %, figurent parmi les principales causes d'épuisement professionnel. En identifiant ces croyances limitantes, l'autrice offre au lecteur un miroir qui leur permet de reconnaître leur propre rationalisation dysfonctionnelle. Une dimension féminine particulière. Émilie Vien observe que les femmes sont souvent plus enclines à s'ouvrir sur le sujet de l'épuisement, mais aussi à se mettre une pression supplémentaire. Citation : « On veut performer à la maison et au travail. À un moment donné, on ne peut pas être partout en même temps. » Fin de citation, souligne-t-elle, mettant le doigt sur cette double exigence qui pèse particulièrement sur les femmes contemporaines. Cette observation résonne avec les données statistiques qui montrent que les femmes québécoises présentent des taux de détresse psychologique plus élevés, 41,3%, que les hommes, 35%. L'autrice salue néanmoins le fait que de plus en plus d'hommes osent parler de leur propre épuisement, contribuant ainsi à briser les stéréotypes de genre autour de la vulnérabilité. Les jeunes de 18 à 34 ans apparaissent comme particulièrement touchés, avec des taux d'épuisement professionnel atteignant 30,5%. Le témoignage d'Émilie Vien, qui a vécu cette expérience dans la trentaine, pourra donc résonner particulièrement auprès de cette génération confrontée à des attentes professionnelles et personnelles souvent irréalistes. L'importance cruciale de l'accompagnement professionnel. L'autrice insiste avec sagesse sur la nécessité de consulter un professionnel de la santé pour diagnostiquer et traiter l'épuisement. Cette recommandation s'aligne avec les meilleures pratiques en matière de prise en charge du burn-out qui souligne l'importance d'interventions structurées. Au-delà du suivi médical, Vien encourage également à se reconnecter à soi-même et à écouter les signaux du corps. Citation : « Mon corps m'a parlé pendant 3 ans, mais j'ai refusé d'écouter. » Fin de citation. Cette reconnaissance de l'importance des signaux corporels rappelle que l'épuisement ne survient pas du jour au lendemain, mais résulte d'une accumulation de signes ignorés. Les recherches indiquent que le soutien des collègues, 65%, et des gestionnaires, 59%, a l'impact le plus fort sur la santé mentale des employés. Cependant, l'autrice rappelle que la guérison commence par une prise en charge personnelle et une démarche volontaire vers le mieux-être, accompagnée idéalement par des professionnels compétents. Un tournant qui ouvre sur un nouveau départ. L'épuisement professionnel s'est révélé être un tournant décisif pour Émilie Vien, qui a quitté son emploi pour fonder son entreprise. Elle enseigne aujourd'hui la gestion du temps, mais avec une perspective radicalement différente. Non pas pour accomplir plus de tâches, mais pour trouver du temps pour ce qui compte vraiment. Cette transformation illustre une tendance observée dans de nombreux témoignages de personnes ayant traversé un burn-out. Plusieurs affirment que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, est devenue une chance de pouvoir reconstruire leur vie, de manière plus alignée avec leurs valeurs profondes. Pour beaucoup, pour rien au monde, ils ne souhaiteraient reprendre la vie d'avant. Le parcours de l'autrice démontre qu'il est possible de transformer une crise en opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Cette perspective positive ne minimise en rien la souffrance vécue, mais offre un horizon d'espoir indispensable pour ceux qui traversent actuellement leur propre hiver. Trouver l'équilibre, un choix conscient et quotidien. Devenue maman, Émilie Vien a appris à compartimenter son temps et à prioriser sa santé mentale. Citation : Je pourrais travailler 100 heures par semaine, mais je sais que ce ne serait pas bon pour moi. Je fais le choix conscient d'équilibrer. Fin de citation. Cette discipline de vie représente probablement l'un des enseignements les plus précieux du livre. L'équilibre ne s'obtient pas une fois pour toutes après la guérison, mais requiert constamment des choix délibérés et répétés. Le milieu professionnel a aussi sa part à jouer. Les entreprises qui investissent dans la prévention réduisent presque de moitié les taux d'épuisement et économisent environ 3 400 $ par employé. Le témoignage d'Émilie Vien rappelle toutefois que la responsabilité ne peut reposer uniquement sur les organisations. Chaque individu doit apprendre à reconnaître ses limites et à les respecter. Un message d'espoir pour une génération épuisée. Avancer sans s'épuiser, s'inscrit dans un moment charnière où la santé mentale au travail est devenue une préoccupation majeure au Canada. Alors que seulement un tiers des employés vivant des difficultés de santé mentale en parlent à leur employeur, ce type de témoignage contribue à briser l'isolement et la stigmatisation. Le livre ne prétend pas offrir de solutions miracles ni remplacer un accompagnement professionnel. Sa force réside plutôt dans sa capacité à dire « Tu n'es pas seul, je suis passé par là et il y a un après ». Pour de nombreuses personnes qui se sentent prises au piège de leur épuisement, ce message simple mais puissant peut représenter le premier pas vers la guérison. L'ouvrage s'adresse particulièrement à ceux qui se trouvent dans leur automne, cette phase insidieuse où l'on normalise des comportements et des états qui ne devraient pas l'être. En aidant les lecteurs à identifier les signaux précurseurs, Émilie Vien contribue à la prévention qui demeure la stratégie la plus efficace et économique face à l'épuisement professionnel. Une contribution humble mais précieuse. Avancer sans s'épuiser ne se présente pas comme un traité scientifique sur le burn-out, mais comme un témoignage authentique enrichi de réflexions personnelles et de conseils pratiques. Cette approche humble, où l'autrice reconnaît explicitement ses limites, constitue paradoxalement l'une des forces du livre. Dans un domaine où les promesses de solutions rapides abondent, Émilie Vien offre quelque chose de plus rare, un récit honnête de reconstruction avec ses avancées et ses difficultés. Elle rappelle que la guérison prend du temps, qu'elle nécessite de la patience et de l'autocompassion, et qu'elle transforme profondément la personne qui la traverse. Pour toute personne qui se sent submergée par son quotidien, qui normalise sa fatigue chronique ou qui se reconnaît dans ses « mensonges » que l'on se raconte pour tenir, ce livre peut servir de miroir salutaire. Il rappelle que prendre soin de soi n'est pas un luxe mais une nécessité et que demander de l'aide constitue un acte de courage plutôt qu'une faiblesse. L'ouvrage d'Émilie Vien prouve qu'il est possible d'avancer sans s'épuiser, à condition d'accepter de ralentir, d'écouter son corps et de faire des choix alignés avec ses vraies priorités. Dans une société qui valorise la performance à tout prix, ce message de modération et d'équilibre représente une forme de résistance bienveillante dont nous avons tous besoin. C'était « Avancer sans s'épuiser », un témoignage lumineux au service de la prévention. Un texte de Yannick Lepage, paru le 21 octobre 2025 dans Art et Culture.